Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous êtes myope, astigmate, hypermétrope ou encore presbyte, vous faites partie des 1 milliard de personnes sur la planète qui ont besoin d'une correction optique aujourd'hui, et cette émission est pour vous. Vous en avez ras la casquette de porter des lunettes, et malheureusement vos yeux trop secs ne supportent plus les lentilles. Eh bien depuis 25 ans, vous le savez sans doute, une troisième solution est envisageable, la chirurgie réfractive au laser, c'est-à-dire la correction de votre défaut visuel par une découpe de votre cornée grâce au laser. Une technique de plus en plus performante qui s'est mise en place très rapidement et qui corrige pendant une période de votre vie plus ou moins longue les troubles de la vue. Cette histoire de la chirurgie laser et des espoirs qu'elle suscite nous est racontée dans l'ouvrage du professeur Yves Pouliquen et du docteur Jean-Jacques Saragoussi dans « Lunettes ou laser, choisir sa vision » paru aux éditions d'Il Jacob en mars 2011. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Professeur Pouliquen ne vous présente plus. Membre de l'Académie française, membre de l'Académie nationale de médecine, spécialiste des pathologies de la cornée, vous avez dirigé le service d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu à Paris et vous êtes président d'honneur de l'OPC, Organisation pour la prévention de la cécité. Nous avions déjà enregistré une émission à ce sujet. Docteur Jean-Jacques Saragoussi, vous êtes chirurgien ophtalmologiste, praticien à l'Hôtel Dieu à Paris, cofondateur de la clinique de la vision et spécialisé dans la chirurgie réfractive et la chirurgie de la cataracte. Dans votre ouvrage « Lunettes ou laser, choisir sa vision », vous rappelez que la myopie est classiquement évaluée à 20% au moins de la population dans les pays développés et que cette augmentation est considérable petit à petit au fur et à mesure du temps. Vous donnez deux exemples aux États-Unis. 25% étaient myopes dans les années 70, 25% de la population. Ils sont 41% en 2000. Et puis à Taïwan, on estime que 70%, ce sont les chiffres que l'on retrouve dans votre ouvrage, on estime que 70% des enfants scolarisés seraient myopes. Alors, première question, comment expliquez-vous cette augmentation des troubles visuels ? Professeur Pouliquen, peut-être, pour commencer.
Je pense que ça s'explique aussi probablement par un relevé plus exact, statistique, des nombres de myopes. Et puis, on a aussi évolué sur la compréhension des mécanismes de la myopie. Et si l'on a pensé pendant longtemps que la myopie était liée à un programme strictement anatomique, c'est-à-dire conditionnant la longueur de l'œil, sachant qu'un œil myope est plus long qu'ordinaire, on est arrivé tout de même à impliquer dans le développement de la myopie chez l'enfant un certain nombre de pratiques de lecture et de lecture appliquée de très près, etc. On a beaucoup avancé dans la connaissance du développement de l'œil sous les effets de la lumière et des images. Donc, il se peut aussi que la myopie, ce soit avec le développement intellectuel, avec la pratique de la lecture et le niveau culturel élevé maintenant généralement des populations, que le nombre de myopes est augmenté.
Donc notre mode de vie a influé sur...
Peut-être. Je ne pense pas qu'on puisse aller à des affirmations absolues, mais tout de même, on a une orientation dans ce sens.
Docteur Jean-Jacques Saragoussi, j'imagine que vous partagez cet avis.
Oui, tout à fait. Donc un meilleur relevé, effectivement, des amétropies, un meilleur dépistage, donc des études épidémiologiques qui permettent d'avoir des arguments et des éléments plus précis d'appréciation. Et puis, les facteurs sont multiples, donc le mode de vie, le développement, les habitudes de vision imposées par la société dans laquelle on vit, et puis aussi des facteurs génétiques, hein, puisqu'il y a manifestement aussi des antécédents familiaux. Hein, chez les myopes, très souvent, ont des antécédents familiaux chez les parents, et donc des facteurs d'environnement, des facteurs génétiques... qui se combinent pour probablement expliquer cette évolution.
Dans la première partie de votre ouvrage, vous retracez l'histoire de cette chirurgie qui, au départ, bien sûr, ne se fait pas au laser. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous raconter quelles sont les différentes étapes. Je crois savoir que l'ancêtre de cette opération est imaginé par un Colombien dans les années 50 et il envisageait de sculpter la cornée à la manière d'une lentille de contact. Pourriez-vous, après, nous expliquer quelles sont les différentes étapes qui vont nous mener au laser ?
C'est un peu plus compliqué. Ah. C'est parti de plus loin. Les Colombiens, vous avez raison, sont intervenus dans les années 50. Mais lorsqu'on va plus loin dans l'histoire, il y a plus d'un siècle, il y a Sato, un Japonais, qui avait démontré qu'on pouvait modifier la courbure de la cornée en incisant cette cornée d'une façon assez barbare, mais il avait démontré le principe physique. Faire des incisions dans la cornée pouvait aplatir cette cornée. Et cette méthode, qui avait été utilisée pour certaines maladies oculaires, avait été imaginée par ce même Sato juste avant la Seconde Guerre mondiale pour pouvant être appliquée à la myopie, mais il l'a fait très peu. Et c'est un russe, Fiodorov, qu'on a bien connu, qui était un homme absolument truculent, soviétique, très très entreprenant, qui a repris cette méthode, et il faut bien lui rendre le mérite d'avoir relancé cette méthode en faisant des incisions cornéennes, mais en appliquant à cette décision une précision qui n'avait jamais été faite et en démontrant qu'on réduisait la myopie. Alors ça a été la kératotomie radiaire par des incisions radiaires de la cornée, et c'est à ce moment-là qu'avec Jean-Jacques Saragoussi, nous avons commencé à être intéressés par cette méthode, d'autant plus que des amis américains la reprenaient sur une grande échelle, et Jean-Jacques, vous vous y êtes mis à ce moment-là. Alors, ce qui était en parallèle avec ce que faisaient les Colombiens, qui eux, par un processus de sculpture de greffons que l'on mettait sur la cornée, permettaient, sous le nom de kératomyélosis, de modifier aussi la courbure. Ce que Jean-Jacques Saragoussi a fait aussi dans mon service à l'Hôtel Dieu, puisqu'on a fait les incisions cornéennes, puis le kératomyélosis, et après Jean-Jacques peut décrire ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé au laser.
Alors, pour la partie laser, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Saragoussi. Qu'est-ce qui va changer avec ce laser? Parce que je crois que les techniques vont évoluer.
Alors en fait, on a évoqué les deux techniques d'incision dans la cornée à la kératotomie radiaire et les techniques de sculpture de la cornée qui étaient développées donc effectivement en Colombie, mais avec des moyens mécaniques. Et en fait, ces deux options de traitement étaient en fait complémentaires et non concurrentes, parce que la kératotomie radiaire s'adressait à des myopies faibles et moyennes, en degré de sévérité faible ou moyen, alors que les techniques de sculpture du tissu cornéen qui étaient développées donc en Colombie s'adressaient à des fortes amétropies, donc à des défauts réfractifs très importants, des myopies fortes, des fortes hypermétropies, voilà. Donc les techniques étaient complémentaires. Donc cette notion de sculpter le tissu cornéen plutôt que de l'inciser, donc était à la base des techniques de kératomyélosis qui étaient développées donc par José Biraquer à Bogota en Colombie dans les années 50. Donc ces techniques, effectivement, nous les avons utilisées à l'Hôtel Dieu dans les années 80. Donc dans les années 80, donc le laser à excimère qui était utilisé dans des applications industrielles, qui est un laser qui émet dans à une longueur d'onde qui est dans les ultraviolets lointains. Ce laser, eh bien, certains ingénieurs et médecins ont pensé pouvoir l'utiliser justement pour sculpter le tissu cornéen plutôt que d'utiliser des moyens mécaniques qui étaient beaucoup plus grossiers, évidemment. Et donc, le laser excimère, effectivement, petit à petit, a montré sa capacité à sculpter de façon extrêmement précise le tissu cornéen, pratiquement au micron près. Donc, tout au long des années 80 et au début des années 90, des systèmes de délivrance du faisceau laser ont été petit à petit développés, mis au point pour justement affiner, à la fois rendre possible l'utilisation rationnelle de ce laser et également obtenir des résultats extrêmement prévisibles. Voilà. Et ensuite, cette technologie n'a fait que évoluer, se développer de façon encore de plus en plus performante.
Et une technique qui, dans les années 90, laissait quand même quelque chose d'assez douloureux pour le patient et qui, petit à petit, après, s'est corrigée.
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, initialement, le laser excimère était utilisé pour sculpter la cornée sur la surface cornéenne. Donc, lorsque l'on touche les couches antérieures de la cornée, ce qu'on explique dans le livre d'ailleurs, on crée la formation d'une ulcération superficielle qui elle-même est responsable d'une réaction inflammatoire dans les couches plus profondes de la cornée. Et ce mode de cicatrisation, effectivement, d'abord provoque dans la phase précoce post-opératoire des phénomènes douloureux et une récupération progressive. Et c'est ce qui a amené à faire évoluer ces techniques. Et donc, secondairement, plutôt que de sculpter sur la surface de la cornée, ce qui se fait toujours d'ailleurs, mais dans des indications bien définies, on a pensé sculpter les couches plus profondes de la cornée pour préserver les couches antérieures. Mais là, ça nécessitait une action chirurgicale complémentaire puisqu'il fallait préparer un volet cornéen superficiel que l'on devait donc soulever pour pouvoir accéder aux couches plus profondes de la cornée et les sculpter.
Professeur Pouliquen, vous souhaitiez rajouter un élément?
Non, ce qui est, en écoutant Jean-Jacques, qui vous racontait l'évolution, c'est-à-dire que le chirurgien qui était impliqué totalement dans ces gestes, et même encore dans les derniers développements de ce qu'il décrivait comme LASIK, le LASIK avec ce volet cornéen était fait par des éléments mécaniques, c'est-à-dire impliquait tout de même un calcul du chirurgien, une participation manuelle importante. Et avec le second laser, le femtoseconde, on arrive maintenant à éliminer pratiquement toute la part manuelle du chirurgien, en gardant bien évidemment la part intellectuelle qui reste capitale.
Alors, ça c'était pour la partie un peu technique, mais maintenant je pense à ce milliard d'êtres humains qui sont touchés par des défauts visuels. Donc au premier lieu, il y a la myopie, l'hypermétropie, être astigmate, la presbytie aussi. Est-ce que l'on peut tout corriger par le laser ?
Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut tout corriger par le laser, mais pas chez tout le monde. Voilà, et pas à tous les âges de la vie.
Bien sûr, oui, c'est ce que vous expliquez au cours de votre ouvrage.
Absolument.
Il y a plusieurs étapes, hein, de 0 à 20 ans, 20 à 40 ans,
exactement,
et 40-60 et plus de 60. Alors justement, pourriez-vous nous détailler ces différentes étapes, à quoi correspondent-elles ?
Au cours des 20 premières années de la vie, bien sûr, on observe d'abord le développement, la croissance de l'œil, et l'installation des amétropies, c'est-à-dire les dérèglements de la focalisation rétinienne. Donc je rappelle que pour qu'une image soit perçue nette par le cerveau, il faut qu'elle soit parfaitement focalisée sur la rétine. À partir du moment où il y a une défocalisation, soit parce que la longueur de l'œil est trop longue, trop courte, ou parce que un des objectifs de l'œil est trop puissant ou pas assez, à partir du moment où il y a un dérèglement de cette focalisation, il y a une amétropie et une vision trouble sans correction de loin. Et donc pendant l'enfance et l'adolescence que ces dérèglements s'installent. Ils ne sont pas pathologiques, ce sont des dérèglements physiques, physiologiques, mais qui aboutissent malgré tout à un problème, puisque sans correction, les patients amétropes ont une vision trouble. Et ces phénomènes finissent par se stabiliser à l'âge adulte jeune, en général à partir de 20 ans, entre 20 et 25 ans selon les cas. Et ensuite, effectivement, dans la période qui va de 20 ans à 40 ans, on est dans une phase de la vie où la réfraction est très stabilisée, puisqu'il n'y a plus de modification de l'anatomie des yeux liée à la croissance des yeux. Donc, si vous voulez, c'est une période, l'âge adulte jeune, où les choses sont figées sur le plan anatomique. Hein. Il peut y avoir des dérèglements physiologiques liés à des problèmes d'accommodation qui peuvent influer sur la vision. Mais dans la grande majorité des cas, la réfraction et la vision est stabilisée. Donc ça, c'est l'âge adulte jeune où, si vous voulez, les indications préférentielles concernent la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie dans une moindre mesure, parce que l'hypermétropie est souvent associée à des problèmes d'accommodation qui rendent les choses un peu plus compliquées et les résultats beaucoup plus difficiles à obtenir de façon satisfaisante. Donc, la population qui profite le mieux de cette chirurgie dans la tranche 20 ans à 40 ans, ce sont les myopes et les astigmates. Voilà. Puis, entre 40 et 60 ans, s'installe la presbytie. Donc, la presbytie qui est liée, en fait, à une baisse progressive du pouvoir d'accommodation et donc diminution de cette faculté de pouvoir mettre au point en fonction de la distance de vision et en particulier, donc, pour la lecture, la vision rapprochée. Donc, dans cette phase de la vie, on peut encore opérer des myopes, mais avec des précautions parce que le myope est en général attaché à une bonne vision de près. Et bien sûr, la correction de la myopie à l'âge de la presbytie peut influencer défavorablement la vision de près. Donc, il faut le faire avec prudence et puis en acceptant des compromis. En revanche, c'est un âge tout à fait favorable pour corriger l'hypermétropie. Car après 40 ans, la réserve d'accommodation diminuant, donc les phénomènes d'accommodation interfèrent moins sur les problèmes visuels des hypermétropes. On peut donc mieux évaluer l'hypermétropie, mieux la mesurer, mieux la corriger de façon stable. Et puis avec un avantage supplémentaire très important, c'est que la correction de l'hypermétropie permet de créer de la profondeur de champ qui favorise la vision de près et qui est un mécanisme très important de compensation de la presbytie. Donc l'hypermétrope opéré après 40 ans peut retrouver à la fois une bonne vision de loin et une bonne vision de près.
Vous disiez faire des compromis, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi une opération, chirurgie laser, et parallèlement continuer de porter des lunettes dans certains cas ?
Oui, bien sûr. L'indication de la chirurgie réfractive, dans nombre de cas, elle a pour objectif de supprimer la dépendance aux lunettes, en tout cas pour une longue période de la vie. sûrement pas de façon définitive, mais pour une longue période dans la vie. Mais dans nombre de cas aussi, on aura pour objectif de réduire la dépendance aux lunettes sans pouvoir la supprimer totalement. Mais ça peut être aussi un avantage très appréciable d'être beaucoup moins dépendant de ses lunettes pour certaines activités bien ciblées.
On a bien compris, il y a plusieurs étapes de la vie à laquelle peuvent correspondre les interventions par chirurgie laser. Est-ce qu'il existe aussi des contre-indications? J'imagine qu'il y en a. Quelles seraient les plus importantes pour ne pas se faire opérer? C'est-à-dire que vous avez un patient qui vient vous voir, qui serait potentiellement candidat et vous lui dites malheureusement non, vous ne pouvez pas être opéré.
Alors, il faut...
Quels sont ces cas?
Il faut déjà avoir un œil parfaitement sain. Donc, aucun antécédent pathologique et aucune pathologie potentiellement évolutive. Nous opérons des yeux sains. Et c'est déjà
pas de glaucome, par exemple.
Non, et c'est une condition essentielle de sécurité. Ensuite, il faut que la métropie, donc le défaut de vision à corriger, soit stabilisé. C'est pourquoi on n'opère pas les enfants, les adolescents, et que les myopes sont opérés lorsque leur myopie est stabilisée, donc après 20 ans. Ensuite, il y a des limites anatomiques liées tout d'abord à l'épaisseur de la cornée, puisque ces techniques sont des techniques de sculpture du tissu, donc qui dit sculpture dit retrait de tissu, donc amincissement de la cornée. Donc nous avons évidemment des limites anatomiques et physiologiques à respecter pour prévenir d'éventuelles complications qui seraient liées à un amincissement excessif de la cornée. Donc l'épaisseur de la cornée, c'est un paramètre déterminant. Et puis d'autres éléments également qui sont liés à l'anatomie de la cornée, en dehors de l'épaisseur, par rapport notamment à sa forme, car il y a des maladies qui affectent la forme de la cornée, notamment une qui s'appelle le kératocone, que le professeur Pouliquen connaît bien, et qui représente une contre-indication absolue, car nombre de patients porteurs de kératocone, en fait, sont atteints d'une maladie à un stade infraclinique, donc ne donnant aucune manifestation visuelle. Cette maladie donc peut être dépistée avec des examens complémentaires spécialisés. Et il se trouve que lorsque cette maladie ne s'est pas développée spontanément avant 30 ans, elle n'évolue jamais, sauf si on pratique cette chirurgie laser sur des yeux qui sont porteurs de l'anomalie topographique. Donc on peut penser parfois que cette chirurgie peut faire évoluer des formes infracliniques de kératocone. Donc il est obligatoire de dépister cette maladie par un examen qui s'appelle la topographie cornéenne. Et lorsqu'on la suspecte, eh bien, on est face à une contre-indication absolue.
Professeur
Pouliquen. Oui, non, je confirme tout à fait ce que dit Jean-Jacques. Je voudrais qu'on évoque la presbytie, car on a parlé de la myopie, on a parlé de l'hypermétropie, on a parlé de l'astigmatisme. La presbytie pose encore un problème en soi, et j'aimerais que vous l'exprimiez, Jean-Jacques.
Alors, en fait, effectivement, on ne peut pas parler de façon simple
de la presbytie,
comme on peut parler de façon relativement simple de la myopie. Parce que la presbytie, en fait... C'est un sujet complexe parce que, bon, elle affecte des adultes à partir de 40 ans. La presbytie évolue jusqu'à l'âge de 60 ans. On est à un âge de la vie où certaines maladies oculaires sont dépistées ou peuvent apparaître, telles que le glaucome, la cataracte. Donc, déjà, il y a des conditions pour envisager une chirurgie de la presbytie qui sont liées à des. Il faut que l'œil soit absolument sain à un âge où les pathologies commencent à être déjà beaucoup plus fréquentes. Bon, d'ailleurs, c'est un point important. Ensuite, l'approche de cette chirurgie, elle dépend de différents facteurs. D'abord, l'âge, parce qu'en fonction de l'âge, eh bien, la réserve d'accommodation est complètement différente. Bon, à 45 ans, on commence à être presbyte, mais on a encore une capacité d'accommodation qui est très utile pour la vision intermédiaire et pour même pour la vision rapprochée lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Mais plus on avance en âge, plus cette réserve d'accommodation diminue. Donc moins on pourra, si vous voulez, utiliser cette réserve d'accommodation en appoint de notre chirurgie. Et puis l'autre élément, c'est la nature de l'amétropie associée. Parce que cette chirurgie ne s'aborde pas de la même façon chez les myopes, chez les hypermétropes, voire chez les hémétropes, les patients qui sont dépourvus des défauts de vision. Donc il y a une palette de techniques ou de moyens, si vous voulez, disponibles qui s'adaptent à des conditions qui sont liées à l'âge et au type d'amétropie associée.
Donc un même outil, mais pour des techniques différentes, utilisé pour des techniques différentes.
Disons que c'est un concept global, mais qui recouvre des moyens très différents et des indications très, très diverses.
Oui. Avec une réponse très précise pour la myopie, très précise pour l'hypermétropie, très précise pour l'astigmatisme. un peu moins précises et faisant appel à certains compromis pour donner une satisfaction. Ça ne veut pas dire qu'on n'obtient pas une satisfaction dans la correction de la presbytie. Il y a moins une question, une réponse, si vous voulez. Il y a plusieurs réponses à la question de la presbytie. C'est ce que je voulais faire.
Malheureusement, après. on ne peut pas restaurer une fonction d'accommodation déficiente. Donc, nous avons recours à des artifices qui visent à créer de la profondeur de champ, qui est très utilisée en photographie, un espace plus ou moins profond dans lequel la vision est vue nette sans besoin d'adaptation. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et créer de la profondeur de champ, donc nous savons le faire, mais avec des moyens qui sont différents chez le myope ou chez l'hypermétrope.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. J'avais quand même deux questions à vous poser. Comment un œil opéré vieillit-il ? Est-ce que le vieillissement de l'œil est différent lorsqu'on a fait une opération dessus ou pas spécialement ? Non, vous me faites non de la tête.
Non, absolument pas.
Non, pas du tout. Non, on modifie l'œil, on le sculpte d'une façon différente et il va vieillir avec cette modification.
Et alors, la question que pourraient se poser les potentiels candidats, qui revient certainement sans doute régulièrement lorsque vous avez des patients qui viennent vous voir, c'est les risques de cette chirurgie laser.
Alors les risques sont extrêmement faibles d'une façon générale, puisque c'est une chirurgie qui devient extrêmement courante. Et il serait hors de question de la pratiquer si les risques étaient importants, évidemment. On opère des yeux sains et donc nous avons un degré d'exigence en matière de sécurité qui est extrêmement élevé. Et donc, si vous voulez, en fait, tout part de l'indication, de la sélection des indications. Donc, il faut savoir éliminer effectivement toutes les contre-indications ou en fait toutes les contre-indications anatomiques, générales, etc. Seul le chirurgien peut apprécier, si vous voulez, le pronostic d'une éventuelle intervention, son résultat, et il ne peut s'engager dans cette chirurgie que s'il considère que le risque est infime et que les chances de satisfaire le patient sont maximales.
Professeur Pouliquin.
Il est inférieur au risque de la cataracte. On arrive. D'ailleurs, un peu l'objet de ce livre, si vous voulez, ça fait 25 ans que nous occupons de la question. Si nous avons décidé d'écrire chez Odile Jacob ce livre, c'est pour dire que maintenant, cette discipline est accomplie. Je ne dis pas qu'elle est terminée. Mais elle est accomplie dans l'étape, si vous voulez, qui nous permet de dire aux patients, vous pouvez vous faire opérer avec une grande sécurité et avec une grande exactitude dans la prévision des résultats.
Ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant.
Non. Et là, maintenant, nous pouvons le dire. Et qu'en plus, c'est une discipline qui a développé considérablement tous les moyens de calcul de la réfraction optique. Et on a fait des progrès considérables. Et si l'on se réfère à ce que nous savions d'un œil quant à sa réfraction il y a 25 ans et à ce qu'on en sait maintenant, eh bien on a fait de prodigieux progrès. Ça tient un petit peu de la magie. Et je crois que Jean-Jacques et moi, nous avons été très heureux de porter ces conclusions dans un livre.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Lunettes ou laser, choisir sa vision », paru chez Odile Jacob et paru en mars 2011. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Et alors, laissez-vous opérer. C'est ce qu'on peut dire. Merci.
Merci.